48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine. Et bien le bonjour à tous, une sixième émission, un sixième MAG de 48 FM, une émission où les animateurs changent mais où le principe reste le même. Trois invités pour trois sujets différents, donc les animateurs changent ou presque car Nico est toujours là fidèle au poste. Bonjour Nico.
Bonjour.
Alors aujourd'hui on va parler éducation et enseignement supérieur avec Florence Couillot qui est directrice du site IUFM de Mende. Bonjour Florence.
Bonjour.
Une page culture où l'on va évoquer l'opéra au cinéma avec ce jeudi une première en Lozère, les Contes d'Hoffmann projetés au cinéma Le Trianon à Mende. Pascal Caillot, directeur du cinéma. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Et après cette page culture, une idée de sortie ce samedi avec le Salon des commerçants et le défilé de mode organisé par l'Office de commerce Cœur de Lozère. Nous entendrons à ce sujet son président Sylvain Bourgade. Bonjour Sylvain.
Bonjour Ludovic.
Et Audrey Malige qui est fleuriste à Mende et qui est surtout en charge du salon. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Et une émission un peu chargée aujourd'hui parce que nous serons également en direct de Paris du Salon Prove Emploi en fin d'émission avec Pauline Morin, coordinatrice de réseau, donc qui viendra nous parler de ce qui se passe dans la capitale. Et je vous invite tous les trois, bien entendu, à intervenir sur les sujets des autres invités. On est ensemble avant tout pour dialoguer. Alors, comme vous avez une conférence de presse à 13h30, on va commencer par vous, Sylvain Bourgade, et par parler du Salon des commerçants de ce samedi, qui va se dérouler au Théâtre de Mende, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, ce salon se déroulera déjà en deux parties, puisque la première partie se passe en journée, de 10h à 19h, avec un salon complet avec tous les commerçants de Mende. Donc, on a à peu près une quarantaine d'exposants. Et ensuite, en deuxième partie, à partir de 21h, ce salon se transformera en défilé de mode, donc jusqu'à 23h à peu près.
D'accord. Au niveau de l'historique de ce salon, c'est nouveau ? Ça fait plusieurs années qu'il est mis en place par l'Office de commerce ?
Non, c'est la première fois en fait que l'Office de commerce s'essaye au salon, puisque donc il n'y avait plus de salon de ce type sur Mende. Et donc nous avons, à l'initiative d'Audrey Malige, donc, qui est fleuriste en centre-ville, nous avons décidé de retenter l'expérience et de repartir à l'aventure.
Quel est l'objectif de ce salon ? C'est promouvoir le commerce mendois ? C'est faire une proposition qui n'existait pas jusqu'à présent ? C'est quoi ?
L'objectif premier, c'est d'abord, en tant qu'office de commerce, effectivement, notre but est de promouvoir le commerce mendois et de permettre aux adhérents de pouvoir assurer la publicité et pouvoir proposer donc leurs produits tout simplement aux consommateurs.
Alors 35 commerçants qui vont venir, c'est ça ? On va retrouver quoi ?
Oui, un peu plus, il y aura une quarantaine de commerces. On va retrouver tout simplement l'offre mendoise existante. On va partir de la culture, du loisir. On va avoir des fleuristes, des coiffeurs. On a tous les corps de métier, tous les corps de commerce qui vont être représentés ce jour.
Nico, peut-être une intervention ?
Oui, peut-être poser la question, pourquoi avoir attendu autant de temps pour refaire une manifestation comme ça ?
Parce qu'on a un programme déjà bien chargé à l'Office de commerce et que chaque année, on essaye de rajouter. Il faut savoir qu'à l'Office, on a une seule personne qui travaille, le reste c'est du bénévolat, 100% de bénévolat. Et l'organisation d'un tel événement, ça se fait pas comme ça. C'est vrai que c'est pour le coup, c'est une première. Ouais. Donc,
et c'était une demande des commerçants aussi, je pense. Non,
et c'était une demande des commerçants, tout à fait. Ce type d'événement est apprécié d'autant par les consommateurs que par les commerçants. Donc on est parti à l'aventure, on a dit allez, on retente cette année, on va voir ce que ça donne. Et on a été un petit peu surpris d'ailleurs du résultat, puisqu'au départ on était parti sur un simple défilé de mode, enfin simple, c'est pas si simple que ça déjà organisé. Et puis les commerçants sont venus vers nous en nous disant mais on aimerait bien montrer nos produits, moi je fais pas de fringues, je fais pas d'habits, donc comment je fais pour promouvoir mon commerce. Et de là on est passé en journée à l'organisation d'un véritable salon automne-hiver.
D'accord. Et là, vous attendez combien de spectateurs ou de consommateurs ?
Le maximum, pour vous dire vrai et pour être transparent avec vous, on atteint l'équilibre budgétaire à peu près sur 750 personnes.
Ah ben voilà, donc, ben c'est un appel, donc il faut au moins 1000 personnes ce week-end.
Voilà, pour qu'on puisse renouveler l'événement l'an prochain, si c'est un succès.
Et peut-être pour faire venir les gens, le clou de la journée, le défilé de mode. Audrey, vous êtes occupée de ce salon, donc j'imagine également du défilé. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Tout simplement, je pense que ça va permettre aux Mandois de voir que sur Mende, on a de quoi s'habiller, de quoi pouvoir trouver tout ce dont on a besoin. Permettre aussi peut-être aux commerçants de montrer des facettes cachées de leur boutique, parce que sachant que bon, on a l'habillement qui a la plus grande partie du défilé, mais après on a tout ce qui est coiffure, où on a des coiffeuses qui vont s'investir dans le sens où elles vont nous faire des coiffures qu'elles peuvent pas faire au long des mois et des choses un petit peu extravagantes.
Tu vois, Ludo, tu là, il y a
un créneau. Peut-être y avait.
Je crois que ce serait même nécessaire. Je veux pas dire que t'es mal coiffé ce matin, mais franchement.
C'est le casque.
Non, après, c'est vrai.
Le défilé est réalisé par des professionnels.
Alors, le défilé est réalisé pas par des professionnels. C'est les BTS MUC du lycée Peytavin qui nous ont gracieusement. MUC. Qui ont bien voulu. MUC.
Qui signifie
Mucoviscidose.
Management des unités commerciales.
D'accord. Ah non, management, c'est ça. Je pensais que c'était mucoviscidose, c'était une spécialisation.
Non.
Je pense que...
pour la mucoviscidose, c'est tout.
Je pense qu'il faut faire investir nos jeunes hein, et leur montrer qu'on est capable de... Voilà, on est capable de faire des choses en Mende qui peuvent autant avoir un impact pour eux, pour leur session, pour leur permettre de montrer que les BTS MUC, c'est pas juste être en cours et juste apprendre à savoir gérer une boutique.
Ouais, puis c'est se confronter à la réalité.
À la vraie réalité.
Pas comme à l'UFM où ils font que d'apprendre des trucs. C'est pour Florence.
Ça a changé depuis la réforme.
Tout à l'heure.
C'était juste une petite attaque, mais pas personnelle, hein, Florence.
Non, après, c'est vrai que bon, on a tout ce qui est esthétique où eux, par contre, vont essayer. On va essayer d'envisager un maquillage corps pour certaines des filles qui le veulent bien. Donc ça permet, ben voilà, à Yves Rocher, à Échappée Belle, de Jardin d'Alana, de montrer.
Je sens tout à coup corporel. Que Nicolas sera présent au salon, tout à coup là.
Ouais, je devais monter à Paris, finalement je vais rester là si on fait des maquillages corporels.
On veut en savoir plus Marc, sur les détend, modèles.
Ça dépend de l'endroit du corps aussi.
C'est pour montrer, alors on va rester très soft, attention. C'est des jeunes, ils sont majeurs certes, mais bon... Un minimum. Et après, voilà, c'est vrai que ben, moi, ce qui touche plus à mon métier, c'est que ça nous permet, autant à Rapid Floor qu'à moi, de montrer des choses qui ne peuvent pas être faites, qui ne peuvent pas être réalisées, tout simplement, parce que c'est un budget beaucoup trop important. Et,
montrer qu'il y a de la créativité, en fait.
Montrer qu'on peut faire complètement autre chose dans une floristerie que le bouquet traditionnel ou la composition de plantes traditionnelle, quoi. Montrer qu'on est capable de faire une robe, de présenter une personne comme ça a été fait auparavant sur des salons mariage et qui était organisé auparavant par nos confrères. Mais voilà, ça permet de montrer plusieurs évolutions.
Et c'est un salon qui s'adresse à quel type de public ?
Tout public, sachant qu'on touche autant les petits que les jeunes, que les personnes... d'un certain âge, sachant qu'on a toute
une gamme de produits
voilà,
qui
plusieurs
correspondent
boutiques
à,
de vêtements qui peuvent toucher tout le monde quoi.
Mais est-ce que c'est pas un peu le principe en fait de faire sur de salons de montrer en fait qu'on peut au-delà des produits qu'on peut acheter aujourd'hui partout, bon, on sait qu'Internet fait beaucoup de mal aux commerces locaux, mais avec les grandes surfaces aussi. Mais peut-être que c'est effectivement la mise en valeur de vos savoir-faire, des services aussi. Qui font une plus-value parce qu'aujourd'hui on peut acheter partout, mais il manque quand même le service, quoi. Et moi je trouve que sur le commerce local, c'est la vraie force du commerce local, c'est le service.
Mais ce qu'on veut surtout montrer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui se plaignent de ne pas trouver tout ce qu'ils veulent en Lozère et à Mende. Et là, ce qu'on veut leur montrer, c'est que le commerce local peut très bien leur fournir des choses qui leur iraient sans passer par Internet, sans monter sur Clermont ou descendre à Montpellier. Voilà, on veut leur montrer que même si on n'a pas tout, même si on ne peut pas tout avoir parce que ce n'est pas possible, parce qu'on est quand même une ville, mais on est surtout un gros village et on travaille, on travaille tous ensemble, quoi, main dans la main, et je pense qu'il faut leur montrer qu'on est capable de leur fournir beaucoup et qu'il faut juste qu'ils viennent nous voir pour qu'on puisse leur montrer ce qu'on peut faire, quoi.
Puis le développement du territoire passe par nous en premier aussi. C'est-à-dire que si nous, habitants de Lozère,
on consomme pas
sur place, on se coupe l'herbe sous le pied directement. Enfin, c'est ce que je pense.
Non, mais tu penses bien.
Merci.
Ouais, je pense qu'il faut rappeler effectivement que les gens qui viennent habiter en Lozère ou qui habitent en Lozère recherchent un certain idéal, un certain cadre de vie et qui n'est pas conciliable. On ne pourra jamais avoir l'Odysséum. Tu parles du commerce, Nicolas. Donc on ne pourra jamais avoir l'Odysséum à Mende. C'est quelque chose d'utopique. Donc on ne peut pas avoir le cadre de vie, la qualité, la tranquillité. Et puis derrière, avoir la capacité économique de faire tourner des machines qui sont aussi grosses que celles de Montpellier. Et c'est vraiment un aspect qu'il faut toujours garder à l'esprit, parce que tout le monde va regretter de ne pas pouvoir aller acheter le dernier meuble à Ikea et dire quand même, il va falloir que je fasse 2 heures de route pour aller à Montpellier. Mais tout ce qu'il y a à côté, du coup, on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on est à Mende et qu'on a des avantages que les Montpelliérains ou que les Clermontois non pas, ou même à plus petite échelle, à Millau ou à Rodez.
Exactement, donc on incite les gens à venir au salon, et pour les inciter, vous avez mis en place des animations, une tombola, des animations, une entracte, il y a toutes sortes de petites manifestations qui vont égrainer cette journée de samedi.
Oui, tout à fait. Il faut, donc on a le salon des commerçants la journée. Et derrière, il faut savoir qu'on a effectivement un point de restauration, on a une buvette, on est soutenu par le comité des fêtes, donc il va s'occuper de la buvette. Il va y avoir des manèges pour les enfants, il va y avoir des jeux gonflables. Il y a une démonstration de moto, donc d'exposition de moto et de quad par Charbonnel Moto.
Ça se fait où alors ?
Alors, il y a une partie donc, qui se fait en intérieur, et ensuite, tout ce qui est jeux gonflables, manège pour les enfants, forcément, ce sera à l'entrée du théâtre.
D'accord.
Sur la place du extérieur, foire. Voilà, en espérant qu'il ne fasse pas moins 20, parce que c'est mal parti ce matin.
Non, il fera très beau. S'il gèle, c'est bon signe.
D'accord, donc oui, toutes sortes d'animations, c'est intéressant. On parlait du public, un défilé qui s'adresse autant aux jeunes, aux enfants, qu'aux personnes un peu plus âgées. D'ailleurs, il y a des enfants qui vont défiler, il me semble.
Oui, il va y avoir donc la première partie du défilé où ça va être des enfants, notamment donc avec l'entreprise BB9 qui est à Ramille, qui va faire défiler, donc présenter ses vêtements donc sur les enfants.
Et tous ces modèles, vous les avez trouvés où ?
Ah, c'est.
On veut savoir.
Il y a eu un casting.
Casting un peu compliqué. D'ailleurs, ouais, Nicolas défile. Je l'ai loupé.
Oui, moi aussi, je l'ai loupé.
Avec BB9.
C'est l'exclusivité de ce matin, c'est que Nicolas défile. Il ne le sait pas encore, mais.
Non,
on a les BTS, en fait, c'est les BTS MUC majoritairement qui vont défiler. Et puis ensuite, il y a donc chaque commerçant, quand il a possibilité de le faire, qui va venir avec ses modèles.
Florence, Pascal, peut-être votre avis sur une manifestation comme ça organisée pour la première fois ?
Pour la première fois, non. Je crois que Sylvain a rappelé, effectivement, c'est un retour. Là, je vais faire l'ancien combattant. Dans une autre vie, je me suis occupé des choses de ce type-là. Donc, effectivement, c'est un mal nécessaire. Il convient de créer une forme d'animation pour recréer la dimension plaisir. Parce que, à part quand on achète un baril de lessive qui fait plaisir à pas grand monde, mais sinon, l'achat constitue d'abord un acte de plaisir. Pourquoi, quand on est en vacances, on a tendance à plus lâcher ? C'est qu'on est bien, on est libéré de certaines contraintes de temps. Et du coup, on regarde plus. Et parce qu'on regarde plus et qu'on est prêt à entendre des choses, tout d'un coup, on découvre que « Ah, mais il fait ça, lui !»« Ah, je savais pas !» Tout ça parce qu'on a pris le temps, simplement. Donc, ces moments-là sont destinés au travers d'animation, parce que ça passe par l'animation. Le reste est une conséquence. Hein. Je me sens bien, alors tout d'un coup, j'ai envie d'acheter. Je m'aperçois que le commerçant, mais il est super sympathique.
C'est un sacré
défi. Il a plein de choses à me raconter. Et puis, oui, j'ai envie, je me sens bien, j'achète. Cette rencontre entre l'acheteur et le vendeur se fait via un acte d'un moment de bien-être.
Mais c'est intéressant, c'est exactement ça, oui. Tu vois, il faudrait que tu me mettes en vacances pour que je consomme un membre.
Non, mais c'est le problème, tous les jours en vacances, toi. C'est le problème des gens dans leur quotidien qui courent du point A au point B en pensant à ceci, à cela, et qui, bon, il faut que dans cette course-là, la vitrine soit l'élément parce qu'elle est bien faite, bien éclairée, bien ceci, bien cela, va interpeller. Une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, ça sera la bonne. Mais oui, on a la différence dans mon quotidien fait que j'ai du mal et je vais à l'essentiel. Et puis, j'ai des moments, alors je l'ai su par différents biais, je suis prêt à entendre, en off tout à l'heure, on parlait de, oui, on peut faire des quantités de promotion, et puis si vous n'êtes pas prêt à entendre, la promo, vous ne l'avez même pas entendue, vous ne l'avez pas lue, vous n'êtes pas prêt à entendre. Et puis un jour, l'oreille est attentive, pourquoi, on ne sait pas, mais là, elle est attentive. Et à ce moment-là, effectivement, il faut que le professionnel qui est en face fasse ce qu'il y a à faire. Et en général, il est bon. Il sait ce qu'il a à vendre, il a un bon produit, et puis il trouve le produit qui va au client qui est en face. Et là, ça marche. Après, donc cette animation est fondamentale. Alors le calendrier est difficile à mener de front, mais moi j'ai toujours milité pour le fait que ce soit les commerçants qui s'occupent d'eux-mêmes. Le faire par les autres, c'est moins bon. Il faut s'occuper de par soi-même et on est bien meilleur vendeur. D'ailleurs, vous êtes là, présent à ces micros, c'est parce qu'on vient vendre chacun ce à quoi on croit. Donc ces animations doivent être là, doivent se multiplier, et effectivement, ce qui se fait depuis quelques temps sur Mende, là, où on a une multiplication d'événements, de différentes catégories, bien rythmées, celui qui est à l'extérieur, immanquablement, il l'entend, ça.
Et ça puis, crée des dynamiques,
ah, tiens, putain, mais il se passe des choses ici. Et c'est vrai qu'en matière touristique, celui qui vient ici, tout d'un coup, lui, il a le temps. Lui, il ne court pas. Et il constate qu'il se passe pas mal de choses.
D'ailleurs, le ressenti qu'ont les touristes par rapport justement à la ville de Mende, à son offre, à sa qualité.
Ils le voient bien mieux.
Ils le voient bien mieux, effectivement, que le consommateur, on va dire, autochtone, qui lui est dans une certaine lassitude.
On revient à ce que tu disais tout à l'heure, et tu as totalement raison. On a l'habitude de se plaindre, de se dire, les prix sont un peu plus chers. Voilà.
Il n'y a rien à Mende, on ne trouve
justement,
rien.
Justement, c'est ce qu'on entend, c'est sûr. Tu évoques la partie prix. Et je vais rebondir justement sur ce que disait Pascal.
La partie prix, mais c'est pas...
non, la partie prise. C'était bien ça.
C'était bien ça.
La partie prise, alors, ouais, d'accord.
Donc, Pascal a évoqué la notion de plaisir. Au jour d'aujourd'hui, le consommateur, on lui martèle quelque chose qui est fondamental dans toutes les communications et tous ceux qui ont les moyens de se payer de la communication, c'est-à-dire les grosses entreprises. Du prix, du prix, du prix, du prix. À partir de ce moment-là, la notion de plaisir, elle est complètement dissoute. Et l'objectif premier du consommateur, c'est de chercher du prix. Et comme la communication est réalisée par les grands groupes, de suite, le consommateur associe grand groupe et prix. Ce qui est faux. Parce que le prix, il ne sera pas plus cher dans des petites boutiques que les grandes. Et en allant en petite boutique, on va retrouver du prix, mais on va retrouver effectivement le conseil et donc le plaisir d'acheter, ce qui est fondamental.
C'est pourtant un sentiment partagé, ça, que quand même dans les petites boutiques, comme il y a moins de volume, si tu veux, bon, c'est peut-être pas vrai, hein, je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, c'est un sentiment qui est très partagé. Alors, comment on fait pour changer ce regard des publics et se dire, si je vais chercher dans une grande boutique, j'aurai de toute façon des prix parce qu'ils ont des marges supérieures puisqu'ils négocient plus en volume, plutôt que dans une petite boutique à Mende. Voilà,
ou bien
c'est
même
vrai
par le biais d'Internet, où Internet, c'est le seul de tous les jours.
Un facteur bien particulier de l'acte d'achat. Quand on achète quelque chose et qu'on l'achète pour se faire plaisir, c'est
quand
secondaire.
Quand on aime, on compte pas.
C'est un peu ça. C'est un peu ça le principe. C'est quand on aime, on ne compte pas. Il faut savoir quand même que quand vous regardez les dernières études qui ont été réalisées, sur Mende, alors qu'on parle de petites boutiques comme on parle de l'Hyper-U, notamment l'Hyper-U a été audité, on est sur une base tarifaire inférieure à ceux de Rodez ou ceux de Millau en termes de GSM. Donc, c'est-à-dire que le ressenti prix est vraiment quelque chose de très local. Donc on ne peut pas affirmer, dire, voilà, en Lozère c'est plus cher ou dans cette boutique c'est plus cher, c'est faux. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu de plus près, on s'aperçoit que, par exemple, quand vous allez à la boutique Kérosène qui fait des marques ou Playenair, vous avez des tarifs en termes de marques qui sont moins chers.
Oui, tout à
d'ailleurs,
fait.
D'ailleurs, pour reprendre l'exemple de Kérosène, ils vendent beaucoup par Internet parce que les gens achètent par Internet. Et autant l'acte d'achat devient compliqué en boutique, mais par contre sur Internet, on a juste un produit, un prix, une explication, et là on se dit que ça colle parfaitement à la réalité.
On a un rapport direct au produit.
Voilà.
Tout et ça, puis c'est... sur Internet, on n'essaie pas. On ne peut en pas plus. Essayer.
On ne peut
et
pas essayer, on peut
parfois
pas,
c'est une pas rapporter, drôle de surprise on quand de on conseils. Ouvre le paquet.
Voilà. Surtout voilà. Les godasses. et les moufles aussi.
J'aurais donné d'autres exemples, mais tu as des exemples masculins, forcément.
Très bien, ben, donc, ouais. on vous invite à venir au salon, le rappel, ce samedi au Théâtre de Mende.
Ouais, il nous faut 1000 personnes, hein, minimum.
1000 voilà, personnes, minimum. Si vous voulez que ça se reproduise l'année prochaine. On va faire une petite pause musicale avant de passer au prochain sujet. Également, un jeu. Audrey, tu voulais dire un mot ?
Oui, juste un petit mot. Je tiens aussi à faire la pub au niveau de McDo parce qu'on a proposé une entrée offerte, une entrée achetée pour un Happy Meal. Voilà, je tenais juste à faire un petit
moment de pub.
Et puis moi, je dirais que si j'ai deux minutes, c'est que plutôt que de prendre sa voiture, c'est samedi, hein, plutôt que de prendre sa voiture pour aller à l'Odysseum à Montpellier, ce qui va vous revenir très cher, et en gasoil, et en frais d'autoroute, etc., pourquoi ne pas venir à Mende ?
Surtout
pourquoi
que le tube,
ne pas rester chez
surtout que le tube expose, en plus, il fait partie des exposants. Donc.
Voilà.
Et bien, c'est parfait. Un petit jeu, Nico ?
Allez, un petit jeu, oui, avec nos amis de Langogne, donc, qui nous proposent deux places gratuites pour le spectacle Hurlement de Léo. Donc, la question essentielle, qui est qui organise ce fameux salon ? Est-ce que c'est l'Institut universitaire de formation des maîtres ? Ou est-ce que c'est effectivement l'Office de commerce ?
Voilà, vous pouvez nous appeler au 04 66 31 59 68. 04 66 31 59 68. Attention, le concert est à Langogne. Hein. C'est voilà, les hurlements de Léo.
Mais il y aura des navettes au départ de Mende pour aller navettes. Sur Langogne. Voilà, un très, très beau spectacle, très beau concert. Hurlements de Léo, organisé par l'association Fadarel et la ville de Langogne.
Allez, tout de suite, Baby, c'est Silicon Baby.
Un jour je serai une icône, baby silicone. S'il faut j'y mettrai le prix, silicone baby. Un jour je serai une icône, baby silicone. S'il faut j'y mettrai le prix, silicone. Costard trop petit, rien à sa place. J'ai le miroir qui a perdu ma trace. Je ressemble à rien, je ressemble qu'à moi. Pas vraiment bien dans ce film-là. Sous mes paupières, dans mes fanzines, je recherche mon faux air de Marilyn. Quelques détails pour être raccord. Il faut que je taille dans le décor. Un jour je serai une icône, baby silicone. S'il faut j'y mettrai le prix, silicone baby. Un jour je serai une icône, baby silicone. S'il faut j'y mettrai le prix, silicone baby. À mes lèvres facsimilées, quelques retouches sécateurs au coin de la bouche comme une fleur. Ascadil toc, y a qu'à me piquer, taillé dans le bloc à plastiquer. Il faut ce qu'il faut pour être belle, jouer du couteau scalpel, un jour je serai silicone. Baby, silicone, s'il faut j'y mettrai le prix. Silicone, baby, un jour je serai une icône. Baby, silicone, s'il faut j'y mettrai le prix. J'y mettrai le prix. Silicone, baby, s'il faut, j'y mettrai le prix. Silicone, baby.
FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Voilà, seconde partie de l'émission. Le jeu, il n'y a pas encore de gagnant. Vous pouvez toujours appeler au 04 66 31 59 68 et dire l'office de tourisme à Guillaume, l'office de commerce, pardon, à Guillaume qui vous attend.
Toujours toi.
Alors,
ouais,
tu donnes des réponses et en plus elles sont fausses.
C'est pour que les gens gagnent pas. Vous dites
si vous dites l'office de tourisme, vous aurez perdu les deux places.
Hein. Tu pas, places,
personne ne va gagner,
je
vais pouvoir y aller. Allez, on va parler d'un sujet sérieux, on va parler enseignement supérieur même, avec Florence Couillot. Vous êtes donc la directrice de l'UFM de Mende,
oui.
Site antenne de Montpellier, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc depuis 2008, avec la réforme de ce qu'on a appelé la masterisation de la formation des maîtres, c'est-à-dire le fait que les enseignants, enfin les étudiants qui souhaitent devenir enseignants soient obligés d'avoir un master 2 pour pouvoir présenter le concours.
Et c'est une bonne chose, Florence?
Ça a des avantages et des inconvénients. Du coup, j'ai perdu le fil de la question.
Nico, tu vas laisser parler nos invités.
Quel perturbateur, ce garçon.
Depuis 2008,
oui,
donc c'est
2008,
devenu.
En fait, on a été, les IUFM ont été intégrés aux universités, avec là aussi pas mal d'avantages et d'inconvénients, notamment, je dirais, une autonomie moins importante qu'auparavant en matière de budget, puisque les budgets sont alloués aux universités qui les gèrent et qui déterminent les budgets des IUFM.
Alors on va parler des réformes, bien entendu, avec vous, mais peut-être avant, savoir comment s'est passée cette rentrée 2012.
Alors, elle s'est pas trop mal passée, je trouve, puisqu'on a cette année deux groupes d'étudiants, Master 1 et Master 2, une vingtaine d'étudiants dans chacun de ces groupes, ce qui mène l'effectif à peu près 40 étudiants pour Mende. Alors, évidemment, pardon. À échelle nationale, ça peut paraître un petit peu faible comme effectif, mais c'est vrai que finalement, nous sommes un des rares IUFM à avoir augmenté notre effectif. Donc même si les chiffres sont plus faibles, on a quand même en proportion davantage d'étudiants que ce qu'on a pu avoir les années précédentes.
Mais en Master 1, on les recrute comment?
Alors en Master 1, il suffit d'avoir en fait une licence. Et c'est un recrutement qui se fait
sur dossier. D'accord.
Et qui les étudiants en fait s'inscrivent sur le site académique de Montpellier et ensuite effectuent des vœux géographiques. Voilà. Donc il faut savoir que pour le site UFM académique, il y a en fait cinq antennes, l'antenne de Carcassonne, de Perpignan, de Nîmes, de Montpellier et de Mende.
Et des étudiants qui réussissent également, parce que j'ai en souvenir un chiffre de 71% l'an dernier, il me semble, des inscrits qui étaient admissibles au concours sélectif.
Oui, exact. Alors ça, c'était les chiffres de l'an dernier. Et cette année, je dirais qu'on transforme l'essai, puisqu'on est à peu près 80% de réussite au concours et au master.
Oui, donc...
Mais alors, c'est quoi l'engouement de la Lozère? C'est lié à l'office de commerce et à son animation de ce week-end ou...
Je pense que c'est beaucoup lié au maquillage corporel.
Ah, c'est ça. Non, mais sérieusement, est-ce qu'il y a plus d'étudiants aujourd'hui aux Lozère? Parce que moi, je suis un vieux de la vieille, mais il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt le contraire.
Alors, ça va et ça vient, sans jeu de mots. Au niveau des effectifs, on est quand même beaucoup tributaire du nombre de postes qui sont offerts au concours. Donc en fonction du nombre de postes, et ça c'est vrai pour à l'échelle nationale aussi, on a plus ou moins de candidats au master.
Est-ce que les étudiants restent en Lozère après, une fois qu'ils ont
leur
concours?
Alors oui, ça c'est ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est qu'on a parfois du mal à faire venir des étudiants non lozériens en Lozère, mais une fois qu'ils y sont et qu'ils ont goûté justement à la qualité de vie dont on parlait tout à l'heure, ils ont envie de rester.
Ouais, j'en suis à un quart.
Et puis on faisait tout à l'heure la comparaison entre Montpellier et Mende, par exemple.
Les deux classes sont peut-être plus à l'échelle ici qu'ailleurs.
Voilà, c'est vrai qu'on est un IUFM à échelle humaine, c'est-à-dire qu'il y a un rapport direct avec les enseignants, il y a vraiment une individualisation des formations, un étudiant qui...
Une qualité de formation en général.
Oui, puis un étudiant qui décroche un petit peu, on le voit tout de suite, quand on a un groupe de 200 étudiants dans un amphi, on ne les voit pas. Là, à 20, on ne peut pas se permettre de faire autre chose en cours que d'écouter.
Donc, c'est une formation en 2 ans, avec la première année, une formation qui est plus du bachotage quand même.
Alors, la première année, c'est une formation qui est plus, je dirais, disciplinaire. C'est-à-dire qu'on retrouve, en fait, sur les 2 années du master, 3 axes prioritaires. Un premier axe qui est tout ce qui touche à la pédagogie, au développement de l'enfant, à la sociologie, je dirais à la pédagogie et à la didactique. Ensuite, on a une partie disciplinaire où on retrouve toutes les disciplines qui sont enseignées à l'école primaire. Et une troisième partie qui est un axe recherche. Recherche en sciences de l'éducation, recherche sur les pratiques en fait, enseignantes. Donc ces 3 parties, elles sont développées sur les 2 années du master avec des proportions, je dirais, un peu inversées. C'est-à-dire qu'en première année, on est beaucoup plus sur des contenus disciplinaire, c'est-à-dire revoir les bases nécessaires et approfondir et se poser des questions sur justement des difficultés que pourraient se poser les élèves. Je prends l'exemple d'un élève de CE2 qui doit reconnaître un verbe à l'infinitif. Ça a l'air simple peut-être pour nous parce qu'on est adulte, mais un enfant de CE2, ça, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Comment lui faire découvrir l'infinitif? Donc ça nécessite que l'enseignant sache lui-même reconnaître un infinitif, c'est la base, et puis qu'il se soit posé un certain nombre de questions sur la discipline.
C'est quoi un infinitif?
Voilà,
je ne parle qu'au participe passé.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait en première année, et puis, enfin, entre autres, hein, et en deuxième année, on aborde davantage les questions de didactique et de pédagogie, c'est-à-dire comment faire pour apprendre à enseigner.
Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous venez de nous expliquer, dans un an ça n'existerait plus, parce qu'il y a tellement de réformes chaque année, ça change tout le temps. Il y a des réformes en cours d'ailleurs en ce moment.
Oui, alors c'est un peu le problème du métier. Donc je dois dire qu'on est soumis aux réformes incessantes, ininterrompues et contradictoires le plus souvent.
Et pas toujours réfléchi dans la durée.
Pas toujours réfléchi dans la durée, voilà, d'un gouvernement à l'autre et parfois même au sein d'un même gouvernement. Donc ça c'est un peu pesant.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, parce que bon, Vincent Payon, pour ne pas le nommer. Récemment, sur la radio, parlait de refondation de l'école. C'est un gros programme. Est-ce qu'on peut pas être tenté aujourd'hui de penser qu'on a franchement besoin d'une refondation de l'école, enfin d'un retour vers quelque chose qui soit plus adapté à la fois à la vie de l'enfant, parce que depuis 70, on parle du rythme scolaire, du rythme de l'enfant. Mmh. Finalement, on s'aperçoit que personne n'en tient compte et que les gamins, ils ont 6-8 heures de cours par jour. Est-ce que c'est pas le moment de remettre un petit peu ça en place?
Alors c'est le moment de faire véritablement une refondation de l'école publique. Maintenant, mon inquiétude, mais bon, je suis pas très, je dirais, compétente nécessairement en matière politique, mais j'ai le sentiment que ça ne va en fait ni assez vite ni assez lentement. C'est-à-dire que il me semble que si on avait voulu proposer une véritable refonte ou refondation, ça se serait déjà fait. Ça va faire bientôt 1 an que le président a été élu et j'ai le sentiment que, du coup, tout ce processus traîne un petit peu. Alors ma crainte, c'est que peut-être on n'arrive pas finalement au bout d'une véritable refondation de l'école.
Ouais, mais après, le vrai problème, c'est que dans l'éducation nationale, enfin, un certain ministre de l'éducation nationale parlait d'un mammouth, c'est-à-dire un animal quand même qui a du mal à se déplacer, qui a du mal à se mouvoir, à bouger, à changer de direction. Est-ce que c'est pas un peu le problème? C'est-à-dire que le problème, est-ce qu'il n'est pas à l'intérieur aussi de l'institution?
Enfin, je crois...
Pour faire bouger les choses, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné radicalement imposer des choix ou dire comme par exemple sur les semaines de 4 jours ou de 5 jours, les débats ont lieu. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu des livres blancs qui ont été écrits, que les enseignants ont planché depuis des années et que tout ça, toute cette matière première existe, qu'il est temps maintenant d'en tenir compte et puis de faire quelque chose avec.
Oui, mais disons que passer en force, c'est jamais la solution, j'irai pédagogique. Et là, je parle en tant que professionnel, ça ne me semble pas pédagogique. Cela dit, on pourrait peut-être accélérer le mouvement en prenant justement appui sur ce dont tu parles, c'est-à-dire les nombreuses réflexions et concertations d'enseignants qui ont déjà eu lieu par le passé et il n'y a pas si longtemps, et finalement les idées principales n'ont pas changé radicalement en 3, 4 ou 5 ans. Mais effectivement, une école qui ne s'ajuste pas au contexte social et économique de son pays, c'est une école qui est vouée à mourir.
Oui, parce que le vrai problème, en fait, ce n'est pas foncièrement l'école, c'est finalement les enfants qui sortent de cette école, ou ceux qui n'en sortent pas, ou ceux qui n'y rentrent plus. Mmh. On a beau dire, bon, l'école, effectivement, c'est l'institution dans laquelle on doit faire grandir nos concitoyens et les futurs citoyens, mais au-delà de ça, c'est des gens qui vont avoir un métier, des gens qui vont pouvoir s'exprimer, qui vont pouvoir écrire, parler, compter. Est-ce qu'on n'est pas en rupture aujourd'hui, ça? Et comment aujourd'hui, l'UFM peut essayer de répondre à cette problématique des enseignants qui sont bon, des fois dans des classes surchargées, ce qui n'est pas le cas en Lozère quand même, puisqu'on a quand même des conditions d'enseignement qui sont idéales, en termes de rapport au public. Hein. Après, dans les petits villages, ce n'est pas toujours facile. Mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'avoir une meilleure adéquation entre l'enseignement et les élèves?
Oui, alors cette possibilité, on espère qu'elle va nous être rendue ou donnée par le biais justement des réformes qui sont en cours. Notre souhait, c'est qu'effectivement cette formation, parce que c'est par la formation qu'on peut faire bouger les choses, devienne beaucoup plus professionnelle et qu'elle soit toujours en accord, je dirais, avec à la fois les partenaires de terrain qu'on a sur place avec les enseignants du premier degré, mais aussi qu'elle soit étroitement liée aux recherches actuelles en termes de pédagogie et de didactique, parce que finalement, il y a beaucoup d'études qui sont en cours et on a toujours un petit peu le sentiment qu'on n'arrive pas à faire se rejoindre ce qui se passe sur le terrain et ces études qui sont des études de terrain. Et on a quand même le sentiment que dans la mise en œuvre en fait, des formations d'enseignants, on a un petit peu de difficulté à lier encore ces deux pratiques. D'où tout à l'heure on parlait de l'intérêt de la masterisation pour les enseignants, enfin pour les étudiants. Moi, ça me paraît vraiment un point fort et un point auquel on tient encore aujourd'hui, nous, je dirais, IUFM, c'est à cet ancrage dans la recherche. Parce que c'est nécessaire pour faire évoluer et le public, et le métier, et la formation. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on ait les moyens de former les enseignants sur le terrain. Et c'est vrai que...
Parce que là, les enseignants formateurs, ils viennent d'où?
Alors, les enseignants formateurs, alors ça, c'est justement une des caractéristiques de l'IUFM, c'est qu'on est vraiment une équipe pluricatégorielle. On a à la fois des enseignants de terrain, qu'on appelle des professeurs des écoles, qui peuvent être soit maîtres formateurs...
Donc, ceux qui sont déjà en classe.
Ceux qui sont déjà en classe, voilà, et qui participent activement à la formation des maîtres. On a également des enseignants qui sont en collège et qui participent aussi à l'UFM, ou des enseignants qui sont en lycée. On a également des enseignants-chercheurs, donc là, qui sont plutôt rattachés à des laboratoires de recherche dans des universités. Et donc, c'est finalement cette identité-là et le fait qu'on puisse travailler tous ensemble avec des points de vue différents sur les mêmes problématiques qui apporte une richesse et qui peut faire en sorte que la formation devienne opérante.
L'IUFM qui va se transformer, on peut parler de l'avenir peut-être, en oui. ESPE.
Oui, alors on a craint d'abord la disparition brutale des IUFM.
Qui était programmée.
Et des IUFM, je dirais, à la limite, mais surtout de la formation. Voilà. Là, ce qui se dessine, c'est la création d'écoles supérieures du professorat et de l'éducation, donc des ESP.
Professionnels.
Oui. Avec, pour l'instant, j'irai très peu d'informations encore sur ce que deviendront ces écoles. Voilà. Donc, je suis comme vous, j'attends les informations qui, j'espère, tomberont bientôt. En revanche, on a des premiers changements pour l'année qui vient. avec des mesures qui devraient être transitoires, c'est-à-dire que nos étudiants qui sont entrés cette année en M1 vont passer le concours au mois de juin. Donc on a une deuxième session en fait du concours. Donc ils vont passer une session au mois de juin, ils vont passer les écrits. Et ensuite, en fonction de ces résultats aux écrits, ils pourront passer les oraux lors de leur deuxième année de master. Ce qui ne change pas, c'est que pour être enseignant de manière quasiment définitive, il faudra qu'ils aient à la fois le master 2 et à la fois le concours.
Le concours.
Voilà. Et la deuxième année, donc pour ces étudiants-là qui sont en M1, donc ils passent les écrits en juin et leurs examens. Ensuite, ils passent en ME2 si tout va bien. Et l'année de M2, ils devraient être a priori dans des classes à hauteur de 6 heures par jour. Donc pour des enseignants du premier degré, ça fait une journée par semaine. Et le reste de la formation serait assuré dans des SP ou des IUFM. Ici ou là.
On voit que vous êtes professeur, hein, vous parlez, tout le monde se tait, on écoute. Hein. À part l'élève indiscipliné.
Ça ne branche pas dans les rangs. Hein.
Ça ne branche pas.
Alors du coup, si jamais on n'a pas le master, on ne peut pas être enseignant.
Si on n'a pas le master, on ne peut pas être enseignant.
C'est déjà arrivé ?
Amende jamais. C'est-à-dire qu'on a quand même des résultats, je le disais tout à l'heure, qui sont assez proches entre le concours et...
Allez, ouais.
Et non, puisqu'en fait, on valide les masters allez. Avant les résultats du concours.
Allez Florent, je suis sûr. S'il n'est pas masterisé, il est pasteurisé. Quoi.
Et
c'est un P2, en fait. C'est plus un M2, c'est un P2.
Mais c'est vrai que, donc, en 2008, les étudiants avaient pu garder le bénéfice du concours et avaient pu repasser leur master. Voilà, ce qui leur permet quand même d'assurer leurs arrières. C'est un concours qui est quand même extrêmement difficile, très sélectif. Il faut être bon dans toutes les matières. Et il faut aussi, à l'oral, montrer que... Ben voilà, qu'on est capable de s'occuper d'une classe.
Et avec tout ça, ça fait un bon enseignant ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors évidemment, le concours a aussi ses inconvénients. De manière générale, oui, on peut dire que quand même les épreuves du concours permettent de sélectionner des enseignants de manière correcte. Évidemment, il y a toujours... je dirais, des cas particuliers et des gens qui vont être très bons en situation de concours, mais qui ne seront pas forcément à la hauteur, entre guillemets, dans une classe. Ça peut arriver. Mais c'est quand même assez peu fréquent. En revanche, ce qui fait qu'un enseignant est recruté comme un bon enseignant, c'est probablement le concours, mais ce qui fait qu'il reste un bon enseignant, c'est la formation continue. Et là aussi, les SP ou les IUFM ont leur rôle à jouer.
On va peut-être faire une pause musicale, c'est très intéressant, mais le temps s'écoule et on ne pourra pas faire parler tout le monde sinon.
Bon, faudra réinviter Florence.
Faudra réinviter
Je
Florence.
Reviendrai.
Pour qu'elle nous parle peut-être de la différence entre enseignement et éducation.
Aussi.
Et surtout qu'on n'a pas parlé de la disparition de la cantine, qui est quand même un sujet important. Les étudiants sont obligés de manger des sandwichs maintenant, à l'IUFM demande.
Ouais, comme toi, entre midi et deux pour animer cette radio.
Exactement, non, moi je ne mange pas carrément, je gagne du temps. Les Kings, Strangers, on vous retrouve après.
Don't
48 FM Le Mag.
Allez, on va quand même relancer une petite fois le jeu pour gagner des places pour aller voir les Hurlements de Léo ce samedi à Langogne. Deux places au 04 66 31 59 68. Et donc, la réponse annoncée par téléphone, Sylvain, c'est l'office de...
Il me semble que tu as dit l'office de tourisme, c'est mais de je suis tourisme. Pas sûr.
Mais si on dit ça, c'est pas sûr que vous gagnez, mais vous pouvez tenter. On va parler cinéma et en même temps d'opéra, alors une première d'ici à deux jours. Alors si vous entendez cette émission jeudi dans la rediffusion, ça sera même le soir même à 19h, à 19h15, il me semble.
C'est ça.
Pascal Caillot, une première en Lozère, oui, ce jeudi, la projection des Contes d'Hoffmann au cinéma Le Trianon. Comment ça se fait que cette année, on retrouve l'opéra au cinéma? C'est l'évolution de la technique qui vous a permis de faire cette proposition?
Tout à fait. Le passage au numérique qui pour nous, est intervenu l'année dernière, à pareille époque, a ouvert de nouvelles possibilités. Parmi elles, cette notion de retransmission. Alors la notion de retransmission par satellite n'est pas nouvelle, hein, puisqu'il y a rien... Oui, nombreuses années.
La télé fait ça depuis de nombreuses années.
Non, mais dans les cinémas, il y avait des expériences il y a 25 ans, mais bon, c'était en vidéo projection, c'était moyen.
En termes de qualité, ouais.
En termes de qualité, la diffusion était mauvaise, le rendu à l'image était mauvaise, le son. Donc il y avait beaucoup d'aléas. Il y avait beaucoup d'aléas. Ça n'a pas eu beaucoup de lendemain. Il s'est passé totalement dans l'oubli. La technologie numérique permet d'accéder à une retransmission qui fait qu'à l'écran, dans la salle, le spectateur a la même image qu'il peut l'avoir au cinéma, à Mende ou ailleurs, enfin, un cinéma qui est équipé en numérique. Donc on a une qualité d'image...
C'est en streaming ?
Je ne sais pas répondre à cette question.
C'est-à-dire, c'est en flux direct ou c'est retransmis avec un léger décalage ?
Non,
captez.
Non, c'est en direct.
C'est en direct. Donc c'est en streaming, c'est en fait, avec un système.
C'est en direct. Maintenant, la qualité est irréprochable tant sur le son que sur l'image. Donc déjà, c'est un gage de satisfaction pour surtout pour des gens qui viennent écouter l'opéra. La bande son pour eux, c'est quand même la chose est essentielle. Donc les quelques premières personnes avec qui j'en ai parlé, bien évidemment, c'était leur première question. Donc bon, j'ai pu répondre de manière satisfaisante à leur réponse. La réalité, on va la voir.
Le verdict sera jeudi.
Alors, le verdict sera jeudi. Normalement, jeudi, la technique devrait ne pas nous poser de problème. En ce sens que jeudi, donc, le spectacle sera en différé. Donc, c'est un spectacle qui aura été capté le 19 septembre dernier et que nous avons décidé de passer ce jour-là. Donc, jeudi 18 octobre à 19h15, début du spectacle. 19h30 pétante, hein, n'arrive pas en retard, hein, normalement, par respect.
Il y a deux spectacles en différé pour cause de commodité, le reste sera en direct.
C'est en direct. Là où on va peut-être plus transpirer, ça va être pour le premier direct qui aura lieu le 13 décembre, où là, effectivement, il y a quelques années de ça, dans la nuit du 13 décembre au 14 décembre, il est tombé 80 cm de neige à Mende. Donc je suppose que le plafond du ciel ne permettait pas beaucoup aux faisceaux satellites de se diffuser normalement. Bon, on va essayer de ne pas se mettre dans cette hypothèse-là. Oui, il y a un aléa technique, malgré ça, sur la retransmission. Donc,
ça se rapproche du spectacle vivant, c'est jamais si ça va avoir lieu.
Bon, les premières expériences là, avec cet opérateur que nous avons choisi, puisqu'il existe donc plusieurs opérateurs.
Et c'est qui intervient sur ça?
Là, c'est une société qui s'appelle Fraprod, donc en partenariat avec UGC. Il y a trois systèmes qui cohabitent en France. Bon, les autres me paraissaient non adaptés à la fois à notre outil d'une part, à la population que nous avions d'autre part. Donc là, bon, c'est vraiment un gros pari que nous tentons. Donc, à la fois parce que bon, il a fallu faire des investissements complémentaires pour permettre de capter et de retransmettre, et puis de savoir s'il y a un public. Oui, j'ai un certain nombre de gens qui m'interpellent au cinéma ou ailleurs en me faisant part de leur satisfaction. Bon, c'est déjà un excellent. D'autres, des fois, manifestent rien du tout. Là, ils expriment leur satisfaction. Bon, après, faudra faire en sorte. Oui. Tout à l'heure, vous avez lancé un appel pour 1000. Moi, ça ne rentre pas dans la salle. Mais, effectivement, 80, 50, si les rangs sont trop clairsemés, quelque part, soit ça sera un défaut d'information, soit ça sera du fait que le public est restreint. Et puis que. Alors après, on verra. Pour l'instant, nous avons vraiment l'intention de faire en sorte que ça se passe au mieux. Donc. Dans l'offre qui nous est proposée par Fraprod, là, donc c'est avec l'Opéra National de Paris. Les autres, c'était Londres ou c'était New York, avec d'autres contraintes, je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai voulu coller au plus avec l'offre nationale, c'est-à-dire de coller aux dates, d'une part, de coller, parce qu'il y a un catalogue bien plus important que ça, sur l'Opéra de Paris, il propose beaucoup plus de spectacles. Là, cet opérateur avait identifié ces dates-là, ces œuvres-là, et donc a fait... quelques supports publicitaires sur lesquels nous nous appuyons pour être en phase avec ce qui se fait ailleurs. Moi, je m'aperçois que cette identification est importante.
C'est où et c'est quoi ailleurs ?
New York, Chicago, Mende.
Après New York, c'est-à-dire les autres lieux qui participent à cet événement, c'est qui ? Parce que je pense que sur Paris, bon, c'est pas super suivi.
Non, mais cet opérateur donc a essayé d'avoir une couverture à peu près nationale. Donc il y a une cinquantaine de villes, de villes, souvent bien plus grandes que Mende, qui ont adhéré à ce système-là. D'autres sont sur Londres, d'autres sont aussi sur New York. Bon. Sur celui-là, et avec ce système, on est une cinquantaine, avec des belles salles, des beaux endroits, et chacun essaye par ce biais de pallier un manque, cette difficulté à accéder au lieu de l'opéra, parce que en général, c'est des lieux restreints en place. Ça coûte relativement cher, voire très cher à certains endroits, et c'est surtout pris d'assaut par des abonnés qui fait que d'année en année, il y a des notions de si je me suis abonné cette année, j'ai une priorité de réabonnement sur d'autres parce qu'il y a un nombre de places limité. Donc c'est difficile, peu accessible en prix. Grâce à ça, on peut offrir un spectacle dans de bonnes conditions.
Ouais. Là, les tarifs que vous proposez, c'est ça, c'est 20 euros et tarifs réduits à 17 euros.
C'est ça, voilà. Quand le spectacle à Montpellier, par exemple, c'est 51 euros la place. Ouais. Donc bon, voilà, ça nous permet de proposer quelque chose dans de bonnes conditions, sur place. Là aussi, au niveau de l'horaire, j'ai voulu coller avec le direct, puisque donc deux spectacles seront en différé, sinon tous les autres sont en direct. Donc ça veut dire que il se passe la même chose à l'Opéra Bastille qui se passera
que ce qu'on pourra voir.
Donc 19h30 pétante, ça démarre.
Il faudra y être. Au moment où il y a l'entracte,
l'entracte, ça veut dire que ça
c'est pas moins cher en
sur
en
place.
Différé.
Pardon.
C'est pas moins cher en différé.
Non.
On va
revient encore sur la notion de prix.
Ouais, c'est la notion de prix. D'ailleurs, derrière il y a un service, c'est du différé, donc c'est du réchauffé.
Vu qu'on parle de prix, on va libérer Sylvain et Audrey qui ont des obligations. Avant de se quitter, l'opéra ça vous intéresse ? Et l'opéra au ciné ?
Oui, l'opéra ça m'intéresse à titre particulier. J'étais dimanche à l'Orchestre national
de Montpellier.
Au théâtre, et d'ailleurs j'ai pu constater que le théâtre était plein. Donc c'est quand même, c'est quand même une preuve de bon goût, même si on est en Lozère, on est quand même capable d'apprécier les belles choses.
J'espère bien.
D'accord.
J'espère bien.
Merci de votre venue. Florence, Florence voulait partir aussi, peut-être.
Non, je voulais finir une conversation qu'on avait commencée.
Ah, d'accord. Allez, ça papote.
En off, on vous tiendra au courant de la conversation. On a des micros partout.
S'il y a des étudiants qui nous écoutent, vous pouvez papoter en cours. Pendant les cours de Florence, il n'y a pas de... Mais à l'extérieur.
En tout cas, on vous remercie. Et puis donc, on donne rendez-vous à tout le monde donc samedi, pour, samedi en journée pour le Salon des commerçants et donc en soirée pour le défilé de mode.
Voilà. Merci à vous.
Merci.
L'opéra ciné, donc, c'est 3h30 pour certains opéras, 1h40 pour d'autres. Et donc, vous expliquez, il y a un régisseur qui est dans sa petite cabine qui va, en fait, il va nous proposer un film. Il va filmer les chœurs, après, il va partir sur la musique classique, il va partir sur autre chose.
C'est exactement ce qui se passe dans un quart régie pour la télévision. Hein. Donc, Bastille ou Garnier, puisque certains spectacles sont à Garnier. Pour ce jour-là, est équipé de plusieurs caméras, de tous les professionnels de la prise d'image et de son, et le régisseur va, en fonction du déroulement du spectacle, choisir un gros plan, choisir un plan large, va faire un travelling, va jouer avec la caméra, et quelque part, on s'apparente à ce qui se passe dans les stades. Vous êtes au stade,
et, oui.
Et puis très vite, les gens se sont aperçus qu'au stade, on n'a pas vu l'action qui était là-bas. Oui. Et donc, ils ont mis des grands écrans pour permettre à la fois d'être dans l'ambiance du stade, mais d'avoir quand même la capacité de voir un ralenti ou de voir quelque chose, un gros plan. Ce que la télé nous donne. Par contre, la télé ne nous donne pas l'ambiance. Effectivement, la télé nous impose l'image qu'on va nous donner. Hein, alors que quand vous êtes au spectacle, vous avez le droit de regarder votre voisine si elle est mieux que le spectacle, ou de regarder un autre élément, les choristes, alors que y a quelque chose qui vous intéresse par ailleurs. Là, ce parallèle est identique. On est dans la salle d'opéra, et on va aller choper des détails et participer à cette ambiance particulière qu'est l'opéra.
D'ailleurs, vous parlez de stade. Comme dirait Nico, il a souvent l'habitude de dire que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On pourrait même imaginer bientôt voir des événements sportifs au cinéma, des concerts. Je sais que ça se fait plus ou moins.
Non, c'est pas
envisageable.
Techniquement, c'est envisageable. Ce n'est pas du tout ma ligne éditoriale. Je n'ai pas vocation. On est d'abord un cinéma. Première chose, donc ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte d'être les meilleurs possibles au niveau du cinéma. Il sort quasiment 700 films par an, on n'en passe pas tout à fait 200. Donc déjà, il faut faire un choix, il faut satisfaire les innombrables sollicitations de la part des distributeurs pour tu mets la grosse salle, tu mets tant de séances, sinon t'as pas le film, machin. Enfin bon, donc c'est compliqué. D'abord, il faut qu'on fasse du cinéma, qu'on le fasse bien, qu'on propose correctement les séances aux bons horaires pour les bons publics et tous les publics, puisqu'effectivement, on est ici le seul cinéma de département et il faut à la fois satisfaire l'enfant de bas âge avec le gars qui aime bien le cinéma japonais ou autre. Enfin bon, donc on va partout. Et puis... Oui, l'opéra, il y a une incapacité, ce que j'ai développé tout à l'heure, à aller. L'événement sportif, c'est pas vraiment ma tasse de thé. En plus de ça, techniquement, c'est pas vraiment chouette. La salle n'est pas adaptée à faire ce genre de choses, qu'elle soit à Mende ou ailleurs. Et puis les concerts. Alors je sais que via ce système de retransmission, Florence Foresti a fait un carton il y a 15 jours sur l'ensemble des salles de France. C'est pas mon objet. A priori, propose un panel de spectacles. Il s'agirait pas de venir en concurrence et de faire des choses en plus. Il y a une offre. Il faut que ces offres-là.
Si Florence nous écoute, si elle veut venir à Mende, on l'accueillera avec plaisir. Allez, Florence.
Voilà, donc,
2 ballets, 5 opéras.
Trois ballets, cinq opéras, 8 dates donc
et
sur
deux sauts. Voilà. Avec les ballets, c'est...
Voilà, c'est mieux. Et oui,
je pensais à toi.
C'est toujours mieux. On vous verra au cinéma, Florence, pour ces opéras? Vous n'êtes pas trop opéra ou...
Excusez-moi.
C'est pas grave.
J'ai un... enfin, Oui, j'ai un petit peu de mal personnellement avec l'opéra, mais je pense que ça vient d'un manque de connaissances. Je me posais tout à l'heure la question justement de... Alors il y a démocratisation de l'opéra par le biais de, ben, des tarifs, hein, qui sont beaucoup plus quand même attractifs que quand on va à Montpellier, où je parlais tout à l'heure de l'opéra Garnier ou de l'opéra Bastille. C'est vrai que je pense qu'effectivement, on n'amène pas peut-être suffisamment l'opéra à l'école. Et peut-être que si on amenait davantage l'opéra à l'école, ça permettrait à des gens d'avoir les codes, en fait, peut-être aussi pour...
C'est compliqué, en fait.
Compliqué. Oui, c'est compliqué.
Déjà, pour une heure et demie de spectacle de cinéma, non. C'est difficile. Non, mais trois heures et demie,
j'ai été sollicité. Non, j'étais pas du tout sur l'idée d'amener une classe à l'opéra pendant...
Mais ça, pourquoi
pas,
hein,
ça se fait aussi, ça je le sais, mais j'étais plus, finalement, sur dans l'apprentissage, dans la musique... C'est vrai qu'on est parfois un peu... Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu, en tout cas, c'est que je n'ai pas vécu de formation.
Très peu d'enfants.
Très, très peu. Ouais. Et mais en revanche, public, j'ai un souvenir d'opéra assez fantastique. C'était celui de Carmen, que j'avais vu avec une enseignante qui était prof d'espagnol. Et on l'avait donc vu, Carmen, avec elle. Et le fait qu'on ait eu en amont... et en aval, une explication, qu'on ait eu...
une médiation.
Une médiation, ouais. Voilà, etc. Ça avait beaucoup changé la donne. Maintenant, il aurait peut-être fallu que j'aie d'autres expériences de ce type pour peut-être être...
Alors, c'est l'éducation. Alors,
je vais vous couper. Voilà. Je vais vous couper. On clôturera avec... l'Opéra Ciné, cette émission. Je vous coupe parce que nous avons en ligne Pauline Morin, bonjour. Voilà, vous nous entendez ?
Très bien.
Parfait, moi aussi. Donc vous êtes en direct du salon Provemploi à Paris, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Donc vous êtes coordinatrice du réseau Accueil Lozère qui regroupe toutes les structures qui travaillent à l'accueil des populations en Lozère. Dites-moi, comment ça se passe ce matin à Paris ?
Alors ça se passe très bien. On a été même agréablement surpris dès l'ouverture à 10h ce matin. Il y a beaucoup de visites sur le stand. On a eu une soixantaine de personnes dans la matinée. Ils sont venus consulter l'ensemble des partenaires du réseau pour la création d'entreprises ou pour la reprise, également pour beaucoup de demandes pour l'emploi, on s'y attendait un petit peu. Mais dans les secteurs qui nous intéressent, les métiers en tension qu'on a en Lozère, donc la comptabilité, la finance, des renseignements également sur les métiers d'ingénieur, les vétérinaires également sont venus nous consulter, et aussi pour le télétravail, qui est une des missions que le réseau Accueil et le réseau Solotezer soutiennent actuellement avec l'ouverture des télécentres en 2013 sur le département.
Alors on va peut-être pas toutes les citer, mais il y a de nombreuses structures qui sont avec vous au sein de ce salon Provemploi.
Oui, le réseau Accueil regroupe 12 structures, sont des structures qui œuvrent pour l'accompagnement des porteurs de projets, que ce soit pour leurs projets professionnels, donc pour ne pas citer les chambres consulaires ou le dispositif interconsulaire relance. Et puis pour l'accompagnement plutôt sur le projet plus personnel, ce sont les pays qui sont là pour nous aider parce qu'ils ont une très bonne connaissance du territoire et de l'offre de services et de logements qui existe actuellement sur l'ensemble du département.
D'accord, très bien. Donc vous arrivez à nouer des contacts au sein de ce salon.
Voilà, exactement, c'est le but du salon, hein, de créer un échange avec des porteurs de projets qui sont intéressés par une installation en Lozère à court ou moyen terme.
Et bonjour Pauline, c'est Nicolas. C'était pour savoir si vous avez des objectifs, en fait. Il faut faire descendre combien d'entreprises de Paris ?
Ah ouais, énormément. Non, pas du tout, on n'a pas d'objectif quantitatif. On a vraiment une mission qui cible des objectifs qualitatifs, c'est-à-dire qu'on souhaite que les porteurs de projets qui viennent s'installer en Lozère aient vraiment envie de venir en Lozère, parce que c'est un territoire certes très charmant, mais qui a ses particularités, hein, on le connaît tous. On n'a pas envie que les porteurs de projets qui viennent s'installer le repartent dans un an ou deux. Donc on est là pour leur présenter le territoire, et pour leur offrir un accompagnement tout au long de leur installation, et même un suivi au-delà de l'installation.
Et vendre la qualité de vie peut-être, non ?
Oui, la qualité de vie et la qualité des contacts. La Lozère est un département à taille humaine, donc l'avantage de tous se connaître, de tous travailler ensemble. Voilà ce qu'on essaye de leur vendre. Il faut utiliser des mots, du commerce.
C'est du marketing Provemploi.
C'est du marketing Provemploi. C'est du marketing territorial peut-être. C'est à la mode aussi ces mots-là. En
ce ouais, c'est vrai.
Il y a beaucoup de territoires qui ont les mêmes démarches que le département de la Lozère, mais on a des atouts que les autres territoires n'ont pas. C'est surtout cette relation humaine et cette proximité humaine, en tout cas, il me semble.
Ouais. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il faut peut-être leur vendre aussi la ZRR pendant encore une petite période qui peut être quand même super intéressante parce que c'est vrai que pour pas mal d'entreprises et d'associations, ça reste quand même un super atout.
Exactement. La ZRR est mise en avant effectivement sur notre stand. On a la présence du MEDEF qui est un partenaire de l'opération et qui présente aux personnes intéressées effectivement les avantages que représente la ZRR.
Florence, une question peut-être ?
Oui, j'avais une question. Je me demandais si les visiteurs qui venaient sur votre stand et s'intéressaient à l'enseignement supérieur en Lozère et si ils étaient au courant des nombreuses formations au niveau de l'enseignement supérieur qui existent sur notre département.
Alors, des questions. Peut-être que la Maison de l'Emploi aurait pu répondre plus précisément là-dessus. Mais je sais que pour le salon, ils ont mis en place un observatoire de la formation justement sur le département parce qu'effectivement, des porteurs de projets peuvent être intéressés soit pour leurs conjoints, soit pour leurs enfants, soit pour eux-mêmes à reprendre une formation. Et donc, c'est une information qui nous semblait pertinente à leur proposer, en tout cas à mettre en avant sur le stand, pas seulement l'emploi et la transmission d'entreprise, mais également l'aspect formation pour tout le monde.
Merci beaucoup, Pauline, d'avoir été en direct avec nous.
Je vous en prie.
Et on vous souhaite une bonne fin de salon. Ça dure jusqu'à quand, jusqu'à ce soir ?
Le salon fermera ses portes à 20h.
D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup.
Merci.
Merci, bon après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Voilà donc pour le salon Provemploi. On avait dit qu'on en parlerait, une petite aparté. Pour ces Lozériens qui vont essayer de chercher des entreprises.
C'est une super initiative, je trouve.
Oui, moi aussi,
de communication et de promotion du département.
Alors il va falloir qu'elle leur dise qu'ils pourront voir de l'opéra au ciné, parce que peut-être que les gens qui veulent venir s'installer ici aiment l'opéra et se disent « ben, dommage ».
L'opéra, eh ben non, grâce à Pascal Caillot et au cinéma Triano, l'opéra est à nouveau à Mende.
Donc Pascal, ce jeudi, premier opéra, Les Contes d'Hoffmann, 19h15.
C'est ça.
On va espérer que les gens viennent nombreux, des autres, alors... Les autres, on les annoncera bien sûr au fur et à mesure dans nos informations locales, comme on a l'habitude de le faire, pour que les gens viennent. Et si l'on veut se renseigner, il y a différents abonnements. On va peut-être finir par parler des abonnements découvertes de 4 places, duo 6 places et saison, toute la saison 8 places, c'est ça ?
C'est ça, des formules qui permettent de faire découvrir, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même pas fondamentalement dans les choses qui sont immédiatement consommées. Donc, il y a des mélomanes, et ceux-là, et pas de problème, ils ont eu l'information, les réseaux ont fonctionné, et donc, ils savent si oui ou non ça va leur plaire, si le programme est à leur hauteur, et tout ça. Et puis après, il s'agit d'éduquer, et il y a quelques années... J'ai entamé ce travail-là pour la version originale sur les films. C'était impossible de placer un film en version originale. Tout le monde, tous les clients rouspétaient parce que. Et puis à force, ben maintenant c'est accepté parce que on a essayé de les amener. Et là, via ces systèmes d'abonnement, oui, bien évidemment, Carmen le 13 décembre constitue. La tête d'affiche de ce spectacle, bien évidemment, qui n'a pas entendu parler et n'a pas dans la tête un petit morceau de Carmen. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc là, par le biais de à la fois du ballet d'une part et de l'opéra d'autre part, il y a possibilité d'accéder à autre chose. Par la carte duo, on peut venir à deux et par ce biais de ces abonnements-là, accéder au tarif réduit qui est proposé. Voilà, j'espère que l'offre satisfera un nombre de Lozériens, puisque effectivement, on parle bien évidemment bien plus large que Mende pour cette opération.
Eh bien, merci Pascal, merci Florence, merci Nico.
Merci Ludo.
C'est fini pour ce mag. Rendez-vous, donc la rediffusion aura lieu ce jeudi à 18h11 et sinon mardi prochain pour une nouvelle émission. Il y a noté ce soir le retour de Rock'n'Roll Diaries à 20h sur Jefferson Airplane en direct de nos studios Place au Blé.
J'y serai, ouais. Je suis toujours branché, moi, j'écoute.
D'accord.
Continue.
Allez, bon après-midi.
Merci.